genre dans mes transgressions. Donc, ce soir, nous avons invité, je commence par ce côté-là, peut-être, Tom Rocher. Vous êtes psychologue clinicien travaillant sur les questions de transidentitaire et intersexe. Valérie Marange, qui est philosophe. Andréa Linares, vous êtes psychanalyste. Vincent Essé, qui d'habitude anime ses séances en tant que qualité de médiateur. C'est pour ça que c'est moi qui le fais, puisqu'il intervient ce soir. Il est cofondateur du groupe activiste TransGAT et la radio Bistouri Oui Oui. Et je n'ai pas ton nom de famille. Karine Boeuf, qui est aussi qui fait partie du GAT. Voilà, donc vous intervenez tous les deux. Alors, on aura en fin de séance, lorsque Vincent interviendra, on vous passera un petit film qu'ils ont produit pour présenter le GAT, c'est-à-dire 3 minutes. Donc vous aurez la tête un petit peu comme ça, de travers, on n'a pas trouvé d'autre système. Et puis sans plus tarder, donc je vais donner la parole à Valérie Marange, qui ce soir va nous parler donc de la normativité, de la puissance de vie et normopathie. Donc on va savoir tout sur la question. Alors, voilà, tiens Valérie.
Bon, peut-être ce que je peux préciser, c'est que j'ai travaillé très longtemps sur l'éthique médicale et le droit médical, avec notamment un travail au départ de recherche-action avec la commission médicale d'Amnesty International. Après quoi, j'ai fait un bouquin sur la bioéthique, qui est épuisé, qui n'est pas réédité, malheureusement. Et puis, je travaille plus dans le secteur de l'esthétique aujourd'hui que de l'éthique, puisque je dirige un lieu d'art en banlieue sud. Donc, j'ai un petit peu changé de secteur, ouais. Mais non sans continuer à m'intéresser à cette question. Notamment récemment, effectivement, j'ai organisé un temps de programmation que j'appelle Cinéphilo, avec un film que vous avez peut-être vu ici qui s'appelle L'Ordre de Jean-Daniel Paulet, qui est un film assez ancien, qui date à peu près de l'époque où est publiée L'Histoire de la folie de Michel Foucault, bien qu'il ne s'y réfère pas du tout, qui parle notamment de la réclusion des lépreux en Grèce jusqu'aux années 76-77, au moment où est découvert un médicament contre la lèpre, qui fait qu'on va arrêter de les assigner à résidence dans cette île où ils vivaient sur un mode, on va dire, villageois, un mode d'un ghetto, si vous voulez, hein, de lépreux. Et on va les libérer, entre guillemets, puisqu'on a trouvé le médicament qui permet d'arrêter la lèpre. Les laboratoires Sandoz, qui ont d'ailleurs financé pas mal, qui ont produit pas mal d'essais cinématographiques, souvent plutôt bons, filent donc du fric à Jean-Daniel Paulet pour qu'il fasse un documentaire sur cette affaire. Si vous avez l'occasion de le voir passer, il existe en DVD, hein, notamment dans l'œuvre documentaire de Paulet qui a été éditée l'année dernière en DVD. On y trouve, le film est structuré à la fois par des images de l'île, avec les mouvements de caméra assez particuliers qui traduisent vraiment quelque chose de cette notion de l'espace et de l'enfermement, et d'une interview d'un lépreux qui est Raymond Dakis, qui était un avocat, qui un matin, la police est venue le chercher, puis il a embarqué dans cette île. Et puis il reparle de cette expérience et il a un propos sur la question de la maladie et de la santé qui est assez véhément, on va dire, qui est une espèce d'adresse aux normaux, puisque alors effectivement les lépreux, si vous voulez, ceux qui se retrouvent dans la société civile normale, ceux qui sont pas encore stigmatisés physiquement, ça se passe à peu près bien pour eux. Ceux qui sont stigmatisés physiquement, la lèpre produit des stigmates très impressionnants. Raymond Dakis lui-même est très très marqué. Bon. Bien entendu, on n'arrive pas à les recaser dans le milieu normal, donc ils vont errer d'hôpital en hôpital, et donc avec une vie qui finalement est plutôt inférieure à celle qu'ils connaissaient dans leur ghetto. Ou du moins ils avaient une vie à peu près normale, c'est-à-dire que ça fonctionnait sur le mode d'un village, il y en avait qui étaient barbiers, il y en avait qui étaient agriculteurs, etc. Bon. Donc on voit qu'un progrès médical qui d'une certaine manière vient normaliser la lèpre d'une certaine manière, puisqu'on peut la guérir, ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la condition sociale des lépreux, en particulier ceux pour qui c'est trop tard pour que la maladie ne vienne pas les marquer, et comment effectivement il y a une autre norme qui fonctionne à ce moment-là, le fait de savoir s'ils sont toujours malades ou s'ils ne le sont plus, n'est plus le problème principal, hein, puisque le problème principal est de savoir s'ils sont intégrables socialement ou pas. Bon. Donc, rapidement, donc on avait notamment confronté ce film à des extraits du séminaire de Foucault, du cours de Foucault sur les anormaux, qui est aussi quelque chose d'assez beau, et bon, qui vient nous rappeler notamment comment, effectivement, historiquement, enfin au XVIIIe siècle, se construit cette figure de l'anormal à travers différentes figures, d'ailleurs, dont certaines nous semblent extrêmement banales aujourd'hui, telles que le masturbateur, par exemple, qui est un des types de la normalité fixée par l'état de la médecine. Bon, on va y venir. Est-ce que c'est de la médecine qu'il s'agit ? Est-ce que c'est d'autre chose ? Bon, si vous voulez, Foucault, Michel Foucault, dans la majeure partie de son œuvre, une de ses théories principales, enfin bon, il y en a plusieurs, mais consiste à dire qu'on ne vit plus sous le régime de la loi, si tant est que ça a été vraiment le schéma, si tant est que le droit, hein, le domaine juridique, légal, législatif, etc., n'ait jamais été aussi central que ça, mais qu'il y a un glissement d'un régime juridique vers un régime de la norme. Pour ça, notamment, c'est son travail sur la prison qui l'amène à dire ça, et sur la pénalité, puisque dès le XVIIIe siècle, en même temps qu'on met en place la prison comme modèle de punition, se met en place une approche du justiciable qui ne se situe plus seulement sur le plan du licite ou de l'illicite, de l'acte et de la sanction de l'acte, etc., mais se situe sur le plan de l'analyse de la personnalité et des motivations de l'accusé. C'est-à-dire que ce qui va déterminer le jugement, ce sera, au-delà de la question des circonstances atténuantes ou de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale, hein, telle que ça se posera ensuite, partiellement. On sait, aujourd'hui, on dit beaucoup, il s'est plein de fous dans les prisons, il ne devrait pas être là, etc. En réalité, il y a bien longtemps que le système pénal, enfin quand on lit les énoncés qu'analyse Foucault, les énoncés du XVIIIe siècle, on voit qu'il y a bien longtemps que le système pénal s'est largement médicalisé, si vous voulez. Alors, je ne parle pas du traitement des prisonniers en pénitentiaire, mais je parle des attendus des jugements. C'est-à-dire que ça va reposer beaucoup plus sur une analyse alors médicale au sens large, puisqu'il s'agit plutôt de psychiatrie, bien sûr, la personnalité et des motivations, des pulsions, sont-ils corrigibles, sont-ils accessibles à la peine, sont-ils ceci, sont-ils cela. C'est cette interrogation qui va présider au type de jugement qui va être donné et qui lui-même prendra l'allure d'une volonté correctionnaire, enfin ce que Foucault a nommé cet espace correctionnaire qu'on va voir dans plusieurs domaines, qui vise à corriger les comportements, hein, la correction, comme vous savez, est un synonyme de la punition, en partie, mais avec cette idée donc qu'on peut changer, qu'on peut modifier quelque chose, notamment chez le condamné, hein, même si, effectivement, aujourd'hui, on pense que la prison, si elle modifie quelque chose, plutôt dans le mauvais sens que dans le bon, en tout cas, il y a cette volonté sans cesse réaffirmée du côté de ceux qui défendent et qui préconisent l'enfermement comme moyen de punition, qui est effectivement le type de modification de la personnalité que ça permet. Bon. Foucault va parler de mode de subjectivation à travers la prison. On cherche à produire, puisqu'en fait le système pénitentiaire, lui, a une autre source. Il est très basé sur le système monacal, hein, dans son modèle. Et donc dans la volonté d'obtenir une réforme du comportement des personnes. Bon. Foucault tire de ce travail-là et de bien d'autres l'idée d'une médicalisation de beaucoup de choses dans la société, hein. Donc à commencer en l'occurrence par la justice, mais pas seulement, et effectivement d'un passage du régime du droit au régime de la norme. Le problème étant pas seulement que la personne ait fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est qu'elle ne soit pas dans la norme, si vous voulez, c'est que son comportement ne soit pas normal. Bon. Et donc on va viser à le modifier et à le faire entrer dans la norme par le moyen de la punition. Mais bon, ça va s'étendre à d'autres techniques sociales, hein. Bon, ce que Foucault appelle les technologies politiques du corps, dans lesquelles il va inclure ce qu'il appelle l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire ça passe par l'école, ça passe par la psychiatrie, par un certain nombre d'institutions. Voilà. Donc, il dit effectivement, dans une société où la question qui va fonctionner plus à la norme qu'au droit, bon, chose dont on peut avoir beaucoup d'autres exemples aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de nos comportements aujourd'hui qui sont régis par des normes. Alors, il y a les célèbres normes européennes, notamment, dont nous ne cessons de nous plaindre, et qui, effectivement, quelle est la différence par rapport à une loi? Alors, bon, c'est peut-être pas si clair que ça, notamment à une époque où les lois n'arrêtent pas de bouger, on a une activité législative absolument frénétique, mais donc qui permettent une hyper-adaptation aussi en permanence de la loi au changement de la norme, on pourrait dire, hein. Mais bon, effectivement, on voit qu'il y a énormément de choses, énormément de normes qui ne passent pas par voie législative et qui pourtant n'arrêtent pas de régir notre comportement. Notre comportement, notre agir, bon, que ce soit la norme industrielle, la norme technique, enfin, tous ces niveaux de normativité. Donc, dit-il, dans une société qui est régie par la norme, la médecine, qui certainement est un des domaines d'origine, alors est-ce vraiment le domaine d'origine, on va en reparler, mais de la notion de norme et de normal, effectivement, est une discipline particulièrement importante dans nos sociétés. Alors, évidemment, enfin moi, faire attention à ne pas parler trop longtemps, je vais avoir la moitié de mon temps à peu près écoulé. Donc, peut-être ce que je peux dire, bon, qu'est-ce que c'est que la médecine d'abord? Bon, on peut avoir l'idée que c'est une science, enfin, je ne sais pas si c'est votre représentation de la médecine. La médecine s'est faite scientifique, hein, depuis à peu près la même période. Claude Bernard, la médecine expérimentale. Donc, l'idée qu'à travers la médecine, on recherche des connaissances et pas seulement la guérison des gens, d'une part, et que d'autre part, l'approche médicale s'améliore à travers une approche scientifique. Bon. Donc c'est notamment toute l'anatomie pathologique, par exemple, qui est typiquement un mélange de l'approche médicale au sens thérapeutique du terme, n'est-ce pas, et de l'approche scientifique dans le sens où de l'anatomie pathologique, on va tirer des conclusions sur la physiologie en général. C'est-à-dire qu'à partir de l'état pathologique d'un organisme, on va pouvoir apprendre des choses sur l'état normal d'un organisme. Ce qui amène d'ailleurs les gens comme Claude Bernard, comme Broussais, etc., enfin tous les grands médecins expérimentateurs de l'époque, à affirmer de manière très récurrente que, de leur point de vue, il n'y a pas réellement de différence entre le normal et le pathologique, que c'est dans l'ensemble une différence de degré, hein. C'est une différence de type quantitatif et pas profondément qualitative. Ce qui, évidemment, en médecine à proprement parler, n'a pas de sens de parler comme ça. Ça, c'est un point de vue de scientifique de parler comme ça. Pourquoi ça n'a pas de sens enfin, si ça peut avoir un sens en partie. Alors, on a notamment. Enfin, bon, là, je vous renvoie à ce petit ouvrage qui est vraiment formidable pour comprendre quelque chose à la norme, non seulement dans le domaine médical, mais dans d'autres. Le normal et le pathologique, donc de Georges Canguilhem, qui a été quand même le prof de Michel Foucault et l'inspirateur d'un bon pan de la philosophie française contemporaine, on peut dire, hein, Deleuze aussi, enfin une série de gens comme ça sont passés par Canguilhem, donc qui est médecin, qui est historien de la biologie et de la médecine. Bon, notamment, il fait une remarque, peut-être, ce qui peut rendre la chose plus claire, c'est qu'il y a une double étymologie à norme. Je vous la passe parce que je ne l'ai pas retenue, mais qui donne pour équivalent, si vous voulez, qui allie de manière bizarre un substantif et un adjectif. Le substantif d'anormal, l'adjectif anormal et le substantif anomalie, qui en réalité n'ont pas la même origine étymologique. L'anomalie vient de anomos, qui veut dire quelque chose d'irrégulier, de pas droit, de rugueux éventuellement, hein. Alors que anormal a une autre étymologie qui indique effectivement un état pathologique. Donc l'anomalie, si vous voulez, on pourrait dire correspond à un plan descriptif des choses. Et en réalité, l'adjectif qui devrait lui être accolé, c'est l'adjectif d'anomal, qui signifie tout simplement différent de la... Alors différent de quoi? Différent de ce qui semble régulier, de ce qui semble éventuellement être la moyenne, c'est-à-dire être le cas le plus courant. Ce qui veut dire que, par exemple, en médecine, il y a des anomalies qui n'ont pas de caractère, qui ne présentent pas de caractère pathologique. Il y en a un certain nombre, par exemple celui de l'ensemble, de l'inversion droite-gauche de l'ensemble des organes, qui n'a pas du tout de conséquences sur le plan physiologique, hein, qui n'empêche pas un organisme de fonctionner normalement, bien que ce soit une anomalie. Donc, si vous voulez, la question en médecine, c'est que la question de la normale, qui est pour le coup la question du pathologique, ne se pose pas sur ce plan de descriptif qui voudrait qu'il y ait un cas différent des autres. Hein, la norme, au sens par exemple de la norme européenne, va refuser un certain nombre de cas différents de ce qui doit être. On va dire comment ça doit être. Et si c'est différent, ça n'est pas dans la norme. Hein. On est dans le cas donc de l'anomalie, si vous voulez. Bien. Qui n'a pas donc nécessairement un caractère pathologique. Donc on est sur une série qui est une série purement descriptive, si vous voulez. D'accord ? Quand on rentre dans le champ de la médecine, on n'est plus sur un plan strictement descriptif, puisqu'il y a éventuellement pathologie. Pas toujours, il peut y avoir une anomalie qui ne correspond pas à une pathologie, ou il peut y avoir une pathologie cachée qui n'est pas ressentie comme telle. Exemple célèbre, le monsieur qui meurt d'un accident de voiture, ou d'un meurtre, ou je ne sais pas quoi, il y a autopsie pour x ou y raison, et on s'aperçoit qu'il souffrait d'un cancer avancé du rein, par exemple. Était-il malade? Ne l'était-il pas? Hein? En tout cas, de son propre point de vue, il n'était pas malade. Il n'a pas éprouvé le besoin de consulter, etc. De la même manière, vous pouvez avoir des taux de durée ou autres dans le sang qui ne correspondent pas directement, enfin pas immédiatement, en tout cas à une pathologie, à une lésion et à une gêne, à quelque chose qui va être ressenti subjectivement. Bon. Ceci pour juste essayer de vous faire valoir la différence entre quelque chose qui serait de l'ordre du constat descriptif et quelque chose qui serait de l'ordre du constat, on va dire, normatif, c'est-à-dire de la position de valeur. Quand on décrit, on ne pose pas de valeur. C'est pour ça que Brousset dit que, de son point de vue, il n'y a pas de différence entre le physiologique et le pathologique. Le physiologique, c'est un ensemble de degrés de pathologie, plus ou moins établis, etc. Quand on se place du point de vue, on va dire, vital, évidemment, il y a une différence en termes de position de valeur, mais qui va plus se poser dans le temps, à la limite, que dans l'espace. C'est-à-dire, le problème ne sera pas qu'un état soit différent d'un autre, vu géographiquement, si vous voulez. Ça sera dans le terme de la succession temporelle. Aujourd'hui, je suis moins bien, je vais moins bien, je me sens moins bien que je me sentais hier, par exemple. Et même si je guéris par la suite, admettons que j'ai une maladie qui amène ce malaise, qui m'amène à consulter, admettons qu'on arrive à la guérir, la guérison elle-même ne sera pas retour généralement à la norme antérieure. Je parle de vraies maladies, hein, je ne parle pas de la petite grippe des familles. Généralement, la guérison va se traduire par une norme, par un retour à la normale, mais qui ne sera pas le retour à la normale précédente. On va se retrouver avec une autre norme de vie Et c'est de nouveau à partir de cette norme qu'on va ensuite évaluer si on est en état pathologique ou pas. Bon, par exemple, effectivement, dans le cas d'un accident où on peut avoir un bras très endommagé, on va estimer avoir obtenu un résultat satisfaisant dans la mesure où on va pouvoir continuer à peu près à servir de son bras, éventuellement pas être obligé de changer de métier, etc. Donc on voit que la question de la différence normale pathologique va se poser différemment, évidemment, pour le clinicien que pour le scientifique et, a fortiori, pour le malade. C'est-à-dire que la maladie du malade n'est pas exactement celle du médecin. Ce qui amène Canguilhem, effectivement, à conclure qu'un clinicien digne de ce nom ne cherche pas nécessairement, évidemment, ou alors il serait totalement irréaliste, pour pas dire fou, à amener le malade à une norme reconnue universellement comme une norme de santé, etc., mais à voir avec lui, et en fonction des traitements accessibles, supportables par lui, etc., etc., ce qu'il est possible de faire pour, effectivement, le ramener à un état à peu près satisfaisant de son point de vue. Voilà. Bon, donc pour dire qu'en effet, quand on est dans le domaine de la norme vitale, qui a un sens, c'est-à-dire que ça a un sens de poser une position de valeur vitale. On ne peut pas se débarrasser comme ça de la question de la norme. Sans ça, d'ailleurs, elle ne serait probablement jamais devenue aussi prégnante si on pouvait s'en débarrasser aussi facilement et faire comme si c'était la même chose d'être dans un état pathologique et dans un état de santé. Évidemment, ça n'est pas le cas. Après, il n'y a pas d'universalisation possible d'un modèle de la santé, contrairement effectivement à ce qu'on voudrait peut-être quelquefois nous faire croire. Enfin bon, je pense qu'on n'y croit pas très très longtemps sur une durée de vie probablement, mais qui fait qu'effectivement on pourrait être amené à dire par exemple toute personne qui a tel taux de globules blancs, je sais pas quoi, dans le sang doit être traitée. On n'en est pas aujourd'hui à ce type d'approche dans le domaine médical, ça serait évidemment totalement irréaliste. Ce qui veut dire qu'en effet, la question de la puissance de vie, c'est pour ça que j'avais mis ce mot, puisque tu me demandais rapidement un titre, j'ai sorti ça, mais effectivement se pose, c'est-à-dire que la vie ne peut pas être indifférente, puisque nous sommes des êtres vivants, nous ne pouvons pas être vis-à-vis de cette question de la norme, dans un état d'indifférence. Nous sommes évidemment en position d'évaluer ce qui est notre puissance de vie à tel ou tel moment, le style de vie qui nous est autorisé ou pas par notre état physiologique ou pathologique, etc. Nous ne pouvons pas y être indifférents. Par ailleurs, je donne juste une explication sur le mot de normopathie rapidement. Donc c'est un mot qui est du docteur Jean Houry, qui est un psychiatre assez connu. Et on va dire que bon, sur ce mot de normopathie, donc qui contient un paradoxe, donc c'est la pathologie de la normalité d'une certaine manière, si on traduit littéralement. Je pense qu'il y a cette idée qui est assez fondamentale justement dans les théories vitalistes type Georges Canguilhem. C'est que, d'une certaine manière, l'état de santé implique de la souplesse. Il implique de l'adaptabilité, par exemple. Par exemple, on peut considérer qu'on est dans un état de santé supérieur si on peut supporter de vivre aussi bien, disons, à la ville qu'à la campagne, pour parler rapidement, en altitude, en haute altitude qu'en basse altitude. C'est-à-dire que toute forme de vie qui, du point de vue de sa normativité propre, va avoir un champ réduit, d'une certaine manière, est moins normale ou est plus pathologique qu'une forme de vie qui sera, on va dire, beaucoup plus tolérante. Voilà peut-être le mot qu'on peut employer, qui va nous renvoyer au domaine psychologique, d'où effectivement cette notion de normopathie, c'est-à-dire qu'une conception rigide intégrée de la norme, en effet, constitue une pathologie. qu'on pourrait mettre du côté de la phobie, qu'on peut peut-être... Enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, donc je m'en garderai. Mais, en effet, se pose cette question. Bon, après, on peut aussi faire remarquer que dans l'univers social actuel, notamment au niveau du travail, puisqu'il y a des normes aussi qui concernent la subjectivité dans le travail, disons rapidement. J'en dis deux mots parce que je pense pas que ça va être beaucoup abordé par les autres intervenants, puisqu'on est plus sur ce terrain du genre, du sexe, etc., sur lequel je pourrais avoir des choses à dire, mais bon, c'est pas j'ai pas anglais mon truc comme ça. Mais sur la question effectivement de la norme subjective au travail, jusqu'à il y a je sais pas, une trentaine d'années, on va dire, la norme dominante était certainement celle du salarié docile qui exécute des tâches partielles gentiment. D'accord ? Aujourd'hui, la norme dans le domaine du travail est plutôt celle de l'entrepreneur, même si on est salarié, hein, c'est pas très grave, donc qui prend beaucoup d'initiatives, qui est très créatif, qui est très souple, qui est très adaptable, etc. Donc on a vraiment changé de modèle subjectif dans le champ du travail. Ce deuxième est-il, parce que plus souple, moins normopathe que le premier, je n'en suis pas certaine, puisque d'une certaine manière, on nous demande d'intégrer là une hyper-adaptabilité qui peut s'apparenter peut-être à certaines psychopathologies. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup Valérie. Bien écoutez, on a revisité la question du norme, de la normativité qui effectivement va nous permettre de continuer sur ce qui nous réunit ce soir, monde médical et construction des normes, mais bien dans le champ du genre. Donc je vais donner la parole à Andrea qui va nous parler du discours sur le corps et médecine du sexuel. Alors je ne sais pas si tu as changé de titre non, depuis.
Peut-être okay. Que je changerai à la fin. Ce n'est pas ça le sujet, mais pour l'instant... Ah oui. Bien, donc je vais poursuivre un petit peu dans le ton que Valérie a ouvert donc, ce débat. Je vais poursuivre dans le sens que j'avais pensé mon intervention plus du côté d'une analyse historique, au fait, des rapports entre médecine, genre et norme. Pourquoi historique? Ce serait une bonne question, étant donné que je ne suis pas historienne. Parce que, en tout cas, c'était une stratégie pour moi pour sortir d'un danger qu'en tout cas je ressentais dans le débat actuel autour de ces questions-là. C'est-à-dire que actuellement, la question, quand la médecine s'articule à la question du genre et de la norme, il y a une tendance, parfois, à polariser le débat autour d'un pour ou contre, bien ou mal, d'accord, pas d'accord. Et ces positions, justement, là, du coup, binaire, me paraissent empêcher ou en tout cas entraver la pensée. Du coup, je me suis dit de reprendre des textes d'une période très précise, juste quelques citations, pourraient nous permettre de penser comment la médecine a commencé à justifier sa propre pratique d'intervention sur des corps sexués, comment elle a envisagé les corps sexués. Donc ça va être plus du côté des discours médicaux que du côté de l'expérience psychique qu'on peut éprouver face à ce nouveau champ du possible, médical précisément, mais bon, social plutôt. Voilà. Donc, je fais aussi un pari que ces textes-là, qu'aujourd'hui je vais évoquer et qui, pour nous, bon, lecteurs et citoyens contemporains, ils sont parfois fantaisistes, on peut les trouver drôles parce qu'ils sont, ils se réfèrent pas à la réalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en tout cas. Mais je fais un pari que ces textes-là, pour plus inadapté qu'il puisse paraître, il parle de quelque chose de l'inconscient, de tout un chacun, de la façon comme à des moments on peut se défendre du corps ou avoir un rapport au corps propre. Je vais mettre ma montre et c'est parti. Donc, d'une façon très générale, aujourd'hui, des travaux historiques sur la question du corps, du genre et du sexe sont, je ne veux pas dire à la mode, mais en tout cas, ils ont été très valorisés. Il y a eu de très bons travaux. Je vais juste citer quelques-uns, peut-être que vous connaissez certainement, Lacœur, Thomas Lacœur avec La fabrique du sexe, Arnold Davidson avec L'émergence de la sexualité, dont les travaux de Foucault, ça va sans dire. Il y a beaucoup de thèses aussi très intéressantes, mais là qui sont plus cachées, parce que parfois elles n'ont pas été publiées, mais je vais citer une qui a été soutenue il y a quelques années, c'est d'Alice Lemos, qui c'est une thèse en psychanalyse, mais par contre elle est très historique aussi. Bon, et si j'avais à dire une phrase générale de ces travaux, j'allais dire que la plupart peuvent nous laisser comprendre, nous laisser en tout cas envisager que le corps n'existe pas de lui-même. C'est-à-dire il y a toujours des théories, une pensée, qu'elle soit inconsciente, qui va nous permettre d'accéder au corps. Et notamment au sexe. Donc, là, je vais m'attacher à un tournant. En fait, comment à un moment donné, justement le 18e siècle, vraiment un tournant, les discours médicaux ont changé par rapport à leur conception du corps et du sexe. C'est-à-dire qu'avant, donc, il y avait toujours des théories qui construisaient le corps, donc ce qu'il y a dans l'argument du cycle des conférences, le corps comme une réalité discursive. Donc, il y avait des théories qui décrivaient le corps et le sexe, les genres, enfin, donc là, ça dépend des théories. Mais ces théories-là, jusqu'au XVIIIe siècle, elles ne faisaient pas intervenir les attirances ou les pratiques sexuelles. C'est très intéressant. Parce que donc Thomas Lacœur, il parle dans son livre, donc La fabrique du sexe, donc d'une théorie qui a été très longtemps dominante, qui disait qu'il n'y avait qu'un seul sexe. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il dit l'idée des deux sexes, finalement, elle est très récente. Parce que pendant beaucoup de siècles, la théorie dominante, du côté des savants comme du côté des théories populaires, était qu'il n'y avait qu'un seul sexe avec deux genres. Il y avait des hommes et des femmes, mais il n'y avait qu'un seul sexe. C'est-à-dire que les hommes avaient un sexe à l'extérieur et les femmes avaient le même sexe à l'intérieur. Bon, comment ils expliquaient ça? Ils expliquaient par une simple différence de température. Donc, c'est la théorie des humeurs, donc qui vient d'Hippocrate et qui a été donc très exploitée aussi par Galien, qui est cité par Lacœur. Donc, c'est-à-dire que les hommes étaient chauds et c'est pour ça que c'est le principe du chaud et sec et froid, humide. Les hommes étant chauds, le sexe était poussé à l'extérieur. Les femmes étant froides et humides, c'était à l'intérieur. Donc de là, un tas de conséquences qui étaient tout à fait normales pour l'époque. Et il y a des documents très intéressants. Donc première conséquence, ça c'est pas une conséquence, mais bon, c'était conçu que les hommes étaient plus parfaits que les femmes, on va dire comme ça. Et donc, la question du changement de sexe était tout à fait envisageable à cette époque-là, pendant ces différents siècles, mais uniquement du côté dans le passage de femme vers homme. Parce que les hommes étant parfaits, ils ne pouvaient pas descendre. Donc, mais les femmes, elles pouvaient devenir hommes, selon ces savants de l'époque, avec parfois des mouvements trop brusques. Une chaleur qui montait, ça faisait que les organes génitaux sortent tout d'un coup. C'est des théories un peu drôles que je vous conseille parce que ça nous sort de l'idée qu'on vit dans un système qui a toujours existé. Non, les systèmes ont été très différents. Donc, il y a le fameux Ambroise Paré, que vous connaissez tous, au moins l'hôpital, les rues. Et donc, il a écrit un texte, peut-être si j'ai le temps, mais je pense que je vais faire, parce que c'est très intéressant. Sur, il raconte un de ces cas, donc, qui est... Donc, je vais vous le lire. Donc, toujours un peu compliqué l'histoire des citations. Parce que là, le livre, c'est dans un très vieux français et j'ai adapté un petit peu au nouveau français. Donc, j'ai vu un certain personnage nommé Germain Garnier. D'aucuns nommaient Germain Marie parce qu'étant fille, était appelée Marie. Jeune homme de taille moyenne. Trappe est bien amassée, portant une barbe rousse, assez épaisse. Bon, je vous passe l'histoire. Peut-être je ne vais pas le lire, sinon peut-être ça va être un peu... Oui ? Bon, j'y vais. Non, mais je vais peut-être résumer, même si, parce que je trouve que c'est un peu long ce que j'ai marqué. Donc, l'histoire est qu'un jour, bon, il se met à courir dans les champs en poursuivant assez vivement des pourceaux qui allaient dedans un blé, trouvant un fossé, le voulut l'affranchir et l'ayant sauté, à l'instant, se viennent à lui développer les génitoires et la verge virile, s'étant rompu les ligaments par lesquels auparavant ils étaient tenus clos et enserrés, ce qui ne lui advint pas sans douleur. Et s'en retourna larmoyant à la maison de sa mère en disant que ses tripes lui étaient sorties du ventre, laquelle fut fort étonnée du spectacle. Et, en ayant assemblé des médecins et des chirurgiens, on trouvait qu'elle était homme, non plus fille, et tantôt après avoir rapporté à l'évêque, par son autorité et assemblée du peuple, il reçut le nom d'homme. Voilà un fait rapporté dans des archives médicaux. C'était comme ça. Et par rapport à ça, je vais dire aussi un point qui est très souligné par Thomas Lacœur, toujours dans cette idée du discours, la réalité discursive de la chair. Il rapporte ce sexe unique, la vérification de ce sexe unique au moment de l'anatomie renaissante. Et il va dire, à cette époque-là, le dit-on était voir pour croire. Mais au fait, il va prouver tout le contraire, que c'était croire pour voir. Qu'au fait, toutes les vérifications, l'ouverture des cadavres a ouvert à la confirmation des théories qui préexistaient. Bon, donc ce sont des faits intéressant pour s'apercevoir comment se construit un corps. En fait, une question que je m'expose souvent, c'est qu'est-ce qui fait qu'un morceau de chair, qu'un morceau biologique, devienne tout d'un coup un corps ? Eh bien, c'est une pensée, c'est une réalité discursive, aussi affective, mais il faut ce voile-là, fantasmatique, discursif, affectif, psychique, en un mot qui est proche en tout cas du domaine dans lequel je travaille. Bien, ça c'était un premier point. Mais alors, dans le siècle des Lumières, il y a eu un tournant. Et toutes ces théories-là, qui avant étaient, donc là j'ai cité cette théorie très importante des humeurs, mais il y en avait d'autres, par exemple concernant l'hermaphrodisme. Au fait, dans la Grèce antique, la question, quand un bébé naissait avec un sexe indéterminé ou insuffisamment déterminé, la question n'était pas celle d'aujourd'hui et ce qui est évoqué aussi, je ne sais plus dans quelle intervention future, la question n'était pas ni du côté de la médecine déjà, mais celle de faire pencher d'un côté ou d'un autre. La question n'était pas celle qui est devenue après le vrai sexe, quel sera le sexe, mais quel est le message divin. Vous voyez, c'était pas faire pencher ni d'un côté ni de l'autre, mais l'hermaphrodisme cachait un message divin. Vous voyez, le corps sexué, jusqu'au XVIIIe siècle, était expliqué par des théories qui n'avaient pas de rapport avec la sexualité. Ce qui est un fait déjà que je trouve tout à fait intéressant. Par contre, il y a eu un tournant. Dans le XVIIIe siècle, on a commencé à voir, du côté de la médecine, des théories qui articulaient pratique sexuelle, attirance sexuelle, pratique et ou attirance sexuelle, et corps sexué. C'est tout à fait intéressant. Pourquoi ? Et ces théories-là, elles sont venues à partir de la question des déviations sexuelles, donc de la sodomie. Sodomie, à l'époque, ne voulait pas dire ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Sodomie était un terme qui englobait toutes les pratiques hors normes, justement. Donc la masturbation, les rapports anaux, comme c'est aujourd'hui, mais bien d'autres. C'était tous les rapports hors normes étaient appelés comme ça. Ce qui s'est passé à cette époque a été la laïcisation du droit pénal. Parce qu'avant, masturbateurs, sodomites, pervertis, ils étaient des criminels. Et à un moment donné, donc avec cette laïcisation, parce que c'était du domaine des hommes et des lois de l'Église, à un moment donné, il a eu la laïcisation du droit pénal. Donc, dans quel domaine allait appartenir ces comportements-là? Donc, il y a eu un rapatriement du côté de la médecine. Et un long passage, on va dire, du côté de la médecine légale, des médecins légistes. Donc, comme si on pouvait supposer qu'il y a eu cet héritage-là, il n'est pas disparu. Cet héritage qui considérait toutes ces pratiques comme criminelles. Je pensais à autre chose, mais je vais passer. Donc, dans ce rapatriement des perversions sexuelles du côté de la médecine, donc ces pratiques-là, elles n'étaient plus un signe. Elles n'étaient plus du côté du crime, mais elles étaient du côté de la maladie. Donc, maladie à l'époque, comme tu as déjà posé, c'était le rapport avec le corps. La pensée, donc Michel Foucault va dire que ce qui a fondé la médecine était cette pensée anatomopathologique. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fonction, il correspond à un organe. Donc, à chaque dérèglement de la fonction, il correspond à un dérèglement de l'organe. Donc, comment on va penser les déviations sexuelles comme des déviations, comme des troubles anatomiques à la base. Et là, c'est très intéressant la façon comme Davidson retrace cette histoire, parce qu'il va diviser en trois étapes. Il va expliciter une première étape où cette médecine-là s'est tâchée de chercher des anatomies dans les organes génitaux. Dire, donc, suivant cette logique imparable à l'époque, s'il y a une déviation, et si une déviation est une maladie, il doit bien avoir des problèmes anatomiques dans les organes génitaux. Non. Là, les théories n'ont pas suffi à trouver des anomalies dans les organes génitaux. Et une autre étape s'est instaurée. Quelle était cette étape qui n'est pas si lointaine d'aujourd'hui? Et c'est ça qui est intéressant dans l'étude des textes historiques, c'est qu'on voit à quel point ils sont liés à l'inconscient, donc ils peuvent émerger toujours, même s'ils sont insensés. Donc il y a une théorie très très sérieuse qui soutenait, oui, il y a une anomalie anatomique. Ça, on ne peut pas ne pas dire. Oui, on ne pensait pas à questionner la norme, mais il fallait trouver l'anomalie anatomique. Comme on ne la trouvait pas, on disait, avec les progrès de la médecine, on va finir par trouver. Donc, vous voyez. Donc, il fallait chercher probablement du côté des anomalies du cerveau. Donc, avec le temps, les progrès, ils allaient trouver. Jusqu'à la troisième étape, donc cette étape, vous voyez, peut espérer toujours. Et la troisième étape a été inaugurée avec la psychiatrie, donc qui a opéré une séparation dans le domaine de la sexualité, et c'est ça l'émergence de la sexualité, donc entre la fonction et l'organe. Voilà, ça, ce sont les trois étapes, donc, ou la façon comme Davidson relie l'histoire médicale des perversions sexuelles. Donc, moi, je trouvais que ces premières théories-là, pour plus farfelues qu'elles nous paraissent aujourd'hui, elles étaient intéressantes à les faire travailler, à analyser. Qu'est-ce qui poussait ces médecins-là à aller chercher des déformations dans le corps? Et du coup, c'est là-dessus que je vais un tout petit peu vous parler, ou en tout cas faire travailler ce soir. Voilà. Donc, pour ces deux premières conceptions, au fait, en tout cas, déjà plus pour la première, donc, qui va chercher, notamment dans les organes génitaux, une anomalie, il y a eu deux types de pensées opposées et contemporains l'un de l'autre. Un qui allait dire, donc, que le corps détermine les manifestations sexuelles. Donc, que s'il y a une déviation, par exemple, s'il y a une inversion, c'est qu'il y a une raison dans le corps. Et l'autre théorie qui est strictement opposée va dire la déviation, elle va déformer le corps. Tout à fait bon, sérieux, hein, et intéressant. Donc, je vais vous donner des exemples, par exemple, de la première. Donc, c'est Michéa qui est cité par Davidson, je vais vous dire, oui, cité par Davidson. Donc, il va tenter d'expliquer ce qu'ils appelaient l'amour grec, donc l'homosexualité masculine, du coup, là, pour le coup. Donc, si ces faits anatomiques se vérifiaient, là, c'est une citation, hein, si on parvenait surtout à découvrir que l'utérus masculin peut acquérir, vous n'avez peut-être pas compris, l'utérus masculin. Donc, il y avait cette hypothèse-là d'un utérus masculin qu'on allait finir par découvrir. Donc, et qui allait expliquer. Donc, si on parvenait surtout à découvrir que l'utérus masculin peut acquérir parfois un développement plus ou moins considérable, on serait peut-être en droit d'établir un rapport entre les tendances féminines qui caractérisent la plupart des individus livrés à la philopédie, donc amour grec. Vous voyez, c'est poussé, on va dire ça, comme ça. Et donc, à partir de cette théorie, vous imaginez que quand il y avait un doute, là, du côté de l'hermaphrodisme, quand il y avait un doute, comment ils allaient enlever le doute? Par les pratiques. Donc, et ce qui est intéressant, et c'est sur quoi je vais revenir, c'est que c'était justement cette idée rassurante de la complémentarité et de la différence de sexe qui venait mettre un ordre sur le désordre propre au sexuel. Vous voyez, et je dis propre au sexuel parce que ces pratiques-là, les pratiques qui ont donné origine à toutes ces théories, elles étaient les pratiques déviantes. Les pratiques, et là du coup, je fais une analogie, donc les pratiques refoulées, tout au moins socialement. Donc, du côté d'un inconscient, celles qui ne sont pas visibles. Et donc, la gêne que cette émergence du coup de l'inconscient pouvait déclencher amenait ces médecins-là du côté d'un surmoi, du côté d'un surmoi. Là, c'est des termes un peu psy, mais du côté d'un ordre social. Il fallait remettre de l'ordre des normes. Donc, du côté de cette idée de la complémentarité et de la différence des sexes. Et de là, toutes les autres théories aussi, celles qui vont soutenir l'inverse, c'est-à-dire les pratiques vont s'imprimer sur le corps. Il y a eu tout un tas de textes très intéressants aussi, très impressionnants, là, que je vous conseille. C'est des textes qui ont été réédités, donc c'est vraiment intéressant. C'est 1800, Ambroise Paré, c'est plus ancien, hein, c'est 1500. Là, c'est Ambroise Tardieu. Oh, Ambroise Paré. Oui, les deux sont Ambroise. Donc, Ambroise Tardieu, c'était un grand spécialiste des mœurs, médecin légiste. Et donc, il a écrit notamment ce « Attentat aux mœurs ». Et donc, là, dans cet ouvrage, il va faire véritablement un dépistage de pratiques sexuelles illicites. Donc, je m'explique, parce que c'est très bizarre pour nous. Donc, lui procédait de la, selon, de la forme suivante. Il disait, selon cette théorie-là, que des actes proscrit socialement, allait s'imprimer sur le corps et allait le déformer. Donc, il pouvait lire, et là, je vais citer parce que ça vaut la peine. Bon, ne vous choquez pas, hein. Adulte. Donc, je vais lire. Donc, je mentionnerai la conformation particulière que peut offrir la bouche de certains individus qui descendent aux plus abjectes complaisances. Donc, vous avez imaginé la plus abjecte complaisance et la forme que la bouche va prendre selon la médecine légale. Bien, j'ai noté de la manière la plus positive chez deux d'entre eux une bouche de travers, des dents très courtes, des lèvres épaisses, renversée, déformée, complètement en rapport avec l'usage en femme auquel elle servait. Voilà, donc c'est pour illustrer cette théorie que les pratiques, ces pratiques-là qui étaient néfastes pour la santé, même Freud dans les textes préanalytiques, il parlait pas de l'inversion, mais il parlait de la masturbation et de le coitus interrompus. Donc c'était des pratiques qui menait à la maladie, à plus long terme, à la mort. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais après, il a changé, vous le savez. Donc, et là, j'arrive à mon temps. Donc, je vais vous apporter peut-être une autre citation avant d'apporter la grande question que ces textes pose, à mon avis. Donc, parce que là, cette citation que je vous ai donnée, elle n'est pas significative d'un mouvement qu'on peut déceler en lisant tout l'ouvrage, qui est cette obéissance à la complémentarité des sexes. Donc, c'est-à-dire qu'un homosexuel masculin allait devenir, selon cette théorie-là, de plus en plus féminin, du côté des femmes aussi. Donc, vous voyez, il fallait que les normes soient rétablies dans cette déformation que les médecins voyaient sur les corps. Mais au fur et à mesure, donc ça, j'ai plusieurs auteurs, hein, pas que Tardieu, mais d'autres de l'époque, c'est très constant. Mais au fur et à mesure, il y a des phrases beaucoup plus, des citations qui vont beaucoup plus loin, en fait, que cette première complémentarité. Donc, progressivement, d'abord, dans un premier temps, des pervertis vont déformer leur corps dans le sens d'un rapport hétérosexuel. Donc, ils vont avoir soit s'efféminer, soit se masculiniser. Mais progressivement, ils vont devenir monstrueux, si on se tient à ces documents-là. Donc, je vais vous lire la dernière citation qui va amener ma question. Il dit « J'ai vu, par exemple, une disposition très singulière et certainement exceptionnelle chez un pédéraste dont les deux fesses étaient complètement réunies de manière à présenter une masse sphérique toute unie. » Bon, vous voyez, ça va très loin du côté de la fantasmatisation. Et moi, vers où et pourquoi je trouve que ces textes sont intéressants, là, dans une perspective analytique, ou en tout cas du côté de l'inconscient. Parce qu'ils se réfèrent à ces pratiques-là qui ne sont pas bienvenues socialement ou consciemment. Et s'il y a une première défense du côté de cette polarité ou cette des deux sexes, cette complémentarité, ce qui vient par la suite, c'est une déformation beaucoup plus radicale qui va presque du côté de la monstruosité. Des fesses comme une masse sphérique, ça questionne presque l'humain. Et je trouvais que c'était très en résonance avec la notion de l'inconscient en psychanalyse, du sexuel inconscient. Parce que Freud, justement, il va parler de monstruosité dans certains passages très précis de son œuvre, au sujet des perversions, mais surtout au sujet de l'inconscient. Je vais vous lire les deux citations, et comme ça, je vais m'arrêter là. Donc, citation de Freud. Ces perversions sexuelles sont frappées d'une proscription toute particulière qui empiète la théorie et vient faire obstacle à leur juste appréciation scientifique. Comme si personne ne pouvait oublier qu'elles sont non seulement quelque chose d'exécrable, mais également quelque chose de monstrueux. Ça, il faut le prendre au deuxième degré. Parfois, c'est difficile quand on lit en haute voix. De dangereux. Comme si on les tenait pour séduisantes. Ça, c'est du côté interprétation de Freud. Et comme si on avait, au fond, à vaincre une secrète envie à l'égard de ceux qui en jouissent. Donc d'abord, il va mettre le monstrueux du côté de cette activité sexuelle proscrite. Socialement, elle est du côté de ses déviations, mais individuellement, elle est du côté du désir inconscient, qu'il soit proscrit ou pas socialement. Et un autre passage, il va encore plus loin. Et il va dire, en fait, la citation va se référer directement là, du côté de l'inconscient. Parce que monstrueux, c'est l'inconscient. C'est la démesure de l'inconscient. Parce que Freud dit, l'inconscient, il est parricide, il est incestueux, il est démoniaque, il est hybride. Vous voyez, c'est vraiment là, du côté du monstre, mais comme un concept, comme quelque chose de plus. Et d'ailleurs, il y a une thèse qui est en train de se faire, qui va être tout à fait intéressante aussi sur la question du monstre en psychanalyse. Je vais vous lire, j'ai oublié le nom de la collègue qui fait la thèse, sinon j'allais vous dire, mais bon, c'est une thèse qui se fait à Paris 7, c'est facile à trouver. Donc certes, on se heurtait sur ce point à la contradiction des philosophes pour qui conscient et psychique étaient identiques et qui assuraient qu'ils ne pouvaient se représenter une monstruosité, qu'ils ne pouvaient se représenter une monstruosité comme l'animique inconscient. Voilà. Je vous remercie.
Merci à toi, Andrea. On garde les questions pour tout à l'heure. Je laisse intervenir tout le monde et comme vous savez, il y a l'échange, c'est par la suite. Donc, je vais inviter Tom Rocher à prendre la parole. Et vous allez nous parler plus précisément aujourd'hui. En fait, on revient donc au présent un petit peu. Comment aujourd'hui la médecine décide des normes et des sexes, des genres et de la sexualité.
Donc, je vais lire, moi, parce que c'est plus simple. Donc, en matière de genre et de sexualité, le monde médical donc a repris les valeurs religieuses qu'il a continué à ériger, contribué à ériger en forme de normes. Alors, je mets des guillemets à normes, ce qui n'était que la majorité en fonction des valeurs morales en cours dans les sociétés occidentales. Donc, je parle principalement d'Europe et d'Amérique du Nord. Donc, je vais juste parler d'un petit lexique concernant les questions trans et intersexes. Donc nous parlons de transidentité plutôt que de transsexualité, car ce n'est pas, c'est une identité et non une sexualité. La transidentité au sens des identités trans, qu'elles soient transsexes ou transgenres. De même, nous avons remplacé transsexuel par transsexe, puisque ce n'est pas sexuel, que le terme transsexuel est construit en fait sur le mode homosexuel et hétérosexuel. Ce n'est pas une attirance amoureuse et sexuelle, mais une identité donc. Donc le thème, et nous disons aussi les personnes trans, on l'écrit avec une apostrophe à la fin, ou personnes transidentitaires, selon, quand nous parlons des personnes, qu'elles soient transsexes ou transgenres, de façon à englober l'ensemble des identités trans, et si on a besoin de précision, on précise à ce moment. Du point de vue donc de leur attirance amoureuse et sexuelle, ce que certains appellent aussi l'orientation sexuelle, mais je trouve que le côté amoureux ne doit pas être oublié dans l'histoire, donc les personnes trans et intersexes peuvent être aussi bien hétéro, homo, bi ou même asexuels. Voilà quoi. Nous n'utilisons plus donc le terme transsexualité, si possible transsexualisme, les deux étant remplacés par transidentité. Et pour les mêmes raisons, les personnes intersexes disent intersexes ou intersexuées plutôt que intersexuelles, et elles parlent d'intersexuation plutôt que d'intersexualité. Alors, les personnes intersexes, ce sont ce que certains appellent les hermaphrodites, mais les hermaphrodites ne sont qu'une petite partie des intersexes. Donc, c'est plus large que simplement l'hermaphrodite, ce qui est assez rare d'ailleurs. Donc, le sexe à l'état civil et génital, majoritairement la déclaration du sexe à l'état civil, donc ce qu'on appelle l'assignation administrative, correspond au sexe génital du nouveau-né. Son identité sexuelle ou identité de genre va se développer dans le sens de son anatomie. Toutefois, les personnes naissent avec un sexe qui n'est, ni mâle ni femelle, mais qui ne présentent pas de pathologie nécessitant une intervention. Ce sont des intersexuations. De même, des personnes présentent un développement de leur identité de genre non conforme au sexe anatomique. Ce sont les transidentités. Ces minorités ne sont pas pathologiques. Tout comme l'homosexualité qui présentait une différence de l'attirance amoureuse et sexuelle par rapport à la majorité hétérosexuelle, ces alternatives ne sont pas si rares et nous montrent la nécessité de repenser les catégories de sexe et de genre et d'attirance amoureuse et sexuelle. Pour illustrer mon propos, je vous propose un tableau récapitulatif. Comme je n'ai pas de tableau, donc vous allez essayer de l'imaginer en même temps que je vous le dis. C'est non exhaustif qui représente en fait des possibilités des sexes génétiques. Alors vous imaginez en horizontal tout ce qui concerne l'ovule. Normalement, l'ovule présente un X comme chromosome, mais on trouve Quand je dis normalement, c'est majoritairement. Mais on trouve aussi des ovules qui présentent 2X, voire 3X. Et puis, verticalement, vous mettez les spermatozoïdes. Et dans les spermatozoïdes, normalement, il y a en majorité Y ou X. Mais il arrive qu'il y ait double Y ou double X, voire triple Y. Ou encore une absence, tout simplement, de gamètes, enfin de chromosomes sexuels. Et quand vous faites correspondre toutes ces possibilités-là, c'est-à-dire que vous fusionnez ce qui correspond aux ovules et aux spermatozoïdes, vous avez donc la formule majoritaire XY pour l'homme, ou plutôt pour le mâle, et XX pour la femelle, mais il y a aussi toutes les autres que l'on trouve comme XXY, ou bien XXXXY, ou bien triple X, ou bien quadruple X, ou encore XYY, etc. etc. Donc, ce qui fait, en gros, 18 formules possibles assez fréquentes. Et puis, il y a même des cas beaucoup plus rares, qui sont un peu comme on peut trouver chez les enfants qui naissent et qui sont un peu soudés, les enfants siamois. C'est-à-dire quand vous avez deux personnes qui naissent, enfin qui se trouvent en fait, il y a l'émission exceptionnelle de deux ovules et qui, lors de la grossesse, peuvent fusionner avant que l'œuf vienne se nidifier. Donc vous avez en fait double patrimoine génétique et des personnes contiennent à certains endroits de leur corps un patrimoine génétique et à d'autres un autre patrimoine. Et on arriverait à ce moment à des formules beaucoup plus complexes. Mais déjà, 18 relativement courantes, on est très loin de deux sexes en fait. Donc cette variété des sexes génétiques fait écho à la variété des sexes biologiques, des sexes anatomiques, puisqu'on les trouve aussi bien dans le fonctionnement physiologique hormonal que dans la forme anatomique interne ou externe. Des identités de genre également, puisque on pense que un homme c'est forcément masculin, ben non, c'est aussi autrement. Et puis dans le développement de l'identité, il y a des variations, des gens qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme, etc. Donc tout ça, en fait, on est très loin d'arriver à comprendre le foisonnement de ce que ça peut représenter. Donc et également donc les attirances amoureuses et sexuelles qu'on comptait au nombre de deux dans un premier temps en parlant d'hétérosexualité et d'homosexualité, mais si on rajoute déjà la bisexualité puis l'asexualité, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucune attirance amoureuse et sexuelle, mais il y a tous les autres, comment vous allez qualifier une personne finalement qui n'est ni mâle ni femelle, qui va avec une autre personne, quel que soit le sexe de l'autre personne? Est-ce que c'est de l'hétérosexualité, de l'homosexualité ou d'autre chose? Si la personne n'est ni mâle ni femelle, de ce point de vue-là, ce n'est pas de l'hétérosexualité, mais ce n'est pas forcément de l'homosexualité. Donc du coup, on arrive à avoir des catégories beaucoup plus importantes que ce qu'il paraît comme ça. Peut-être que l'intérêt, ce serait justement de ne plus catégoriser. Donc les sexes majoritaires dans la population, ce sont les deux mâles et femelles que tout le monde connaît, mais les autres, on n'en parle pas. Donc ce ne sont qu'une partie des possibilités. La majorité n'est pas la norme et la minorité n'est pas forcément anormale. La minorité n'est que minoritaire et donc il n'y a pas de standard dans l'humanité. Donc concernant les intersexes et la déclaration de sexe à la naissance, qui ne reconnaît donc que deux catégories, sexe féminin, sexe masculin en France, d'autres endroits on les appelle autrement, mais enfin c'est deux catégories majoritairement dans tout l'Occident. Il y a des pays, des cultures où il y a cinq sexes, où il y en a trois, ça dépend quoi. Donc c'est vraiment une histoire de culture tout ça. Toute apparence donc génitale non conforme à l'un des deux sexes majoritaires est rectifiée chirurgicalement quelques jours ou quelques semaines après la naissance. Nombre de personnes intersexes sont ainsi mutilées génitalement lorsqu'elles sont bébés sans qu'on sache quel développement psychologique va prendre leur identité de genre. C'est-à-dire qu'en fait, on les oriente dans un sens, mais ça ne veut pas dire que le psychisme va suivre. Comme c'est un développement qui prend plusieurs années, on peut avoir des surprises, quoi. Donc, en quoi couper un clitoris trop long ou un pénis trop court est une réparation? Si l'excision est considérée comme une mutilation sexuelle, ce type de chirurgie en est une aussi. Le but de conforter les normes selon lesquelles il n'y a que deux sexes, deux genres et deux attirances amoureuses et sexuelles, c'est ça le but, c'est de tout ramener à deux, un système binaire en fait, où il n'y a pas de possibilité d'alternative, où on enferme les gens aussi dans ces cases-là, quoi. Donc actuellement en France, les médecins utilisent la procédure du consentement éclairé, pour faire endosser aux parents la décision d'assignation, donc de leur bébé intersexe. Ils entretiennent la confusion entre l'assignation administrative et l'assignation chirurgicale. Alors la modification du sexe chirurgical, elle, n'est pas obligatoire. Si la première l'est, la seconde ne l'est pas. Donc les médecins présentent les informations d'une façon tronquée, dramatique, effrayante, afin d'obtenir le consentement des parents au traitement proposé. La plupart des parents ignorants se remettent à l'avis des médecins. Dans le passé, les enfants étaient opérés à l'insu des parents, et maintenant ce sont les parents qui font la demande par manque d'informations, ce qui dédouane les médecins de leur responsabilité. Ce consentement éclairé, en fait, n'en est pas un. Concernant les trans et les changements de sexe, les équipes médicales hospitalières ont mis en place des protocoles discriminatoires visant à fabriquer, entre guillemets, des trans hétérosexuels après leur transition, en excluant toutes celles, donc les personnes, toutes celles qui ne correspondent pas à leurs critères, donc l'âge inférieur à 25 ans ou supérieur à 55 ans, séropositivité au VIH ou à l'hépatite C, personnes mariées, personnes ayant des enfants, personnes prostituées, personnes homosexuelles après transition. Ils ont également pour but de limiter le nombre de candidats à une transition. Alors je vais illustrer par trois cas cliniques. Deux sont publiés dans la littérature, donc je n'ai fait que résumer ces deux cas. Alors le premier date des années 45, et c'était comment on traitait les personnes trans à l'époque. Et je dirais qu'il y a encore des cas de figure. Alors c'est pas aussi grave dans le sens où on interne quand même les gens, on les met sous neuroleptique, mais on s'arrête là. Mais c'est quand même déjà beaucoup. Donc elle, âgée de 22 ans dans les années 45, donc je garde le vocabulaire clinique de l'époque pour vous montrer aussi comment les choses étaient vues dans les années 45. Donc, elle, âgée de 22 ans, entre en maison de santé à Ville-Évrard le 26 septembre 46 après un an de traitement psychanalytique. Rien à signaler comme antécédent héréditaire avoué. Ses parents sont bien portants. Il a un frère de 11 ans qui est normal. Aucune maladie grave durant son enfance. Son développement intellectuel se fait lentement et il obtient avec peine, à 15 ans, son certificat d'études primaires. Ses connaissances scolaires sont restées rudimentaires. Vers l'âge de 18 ans, il se met à lire des livres de philosophie et de spiritisme. Il apprend assez facilement la photogravure. D'après ses parents, les troubles mentaux auraient débuté à l'âge de 22 ans. Mais en fait, ils se sont développés beaucoup plus tôt, comme le montrent les renseignements donnés par le malade lui-même. À son entrée à l'hôpital, on se trouve en présence d'un jeune homme qui porte une chevelure longue à type féminin. Donc on a toujours tout le long des stéréotypes comme ça qui reviennent régulièrement, dans tous les façons de voir en fait. Il nous dit que dès l'âge de 4 ans, il était une femme et qu'il avait honte d'être habillé en garçon. À l'école, ses camarades le regardaient drôlement. Il aurait essayé dans la suite de réagir contre cette idée de se croire femme et de se persuader qu'il est un homme, mais en vain. Il a pris des habitudes féminines, il a laissé pousser ses cheveux, plusieurs fois il s'est habillé en femme et s'est maquillé. Il s'est fait épiler la barbe et les poils. À 17 ans, il a fait le trottoir, plusieurs fois il s'est fait accoster par des hommes, avec lesquels il a eu des rapports homosexuels, jouant le rôle du personnage passif. À 18 ans, il a eu cependant des rapports sexuels avec une femme, mais il a conservé l'idée qu'il était une femme. À noter donc une anesthésie affective complète, apragmatisme, d'ailleurs les gens qui ne font plus d'activité, indifférence concernant son internement, les réflexes tendineux sont vifs, il n'y a pas d'autres signes neurologiques. Alors, hérétisme cardiaque, ça veut dire pouls violent. C'est lié à l'anxiété. Elle est soumise au traitement suivant. 20 comas insuliniques avec électrochocs associés. Alors, il faut savoir que les comas insuliniques, c'est qu'on met de l'insuline en dose assez suffisante pour provoquer un coma chez l'individu. Les électrochocs, bah, tout le monde sait ce que c'est. Ça n'a pas évolué. Aucun résultat, donc. En janvier et février 47, deuxième série de 31 comas. Alors, on augmente avec électrochocs associés. Puis, une troisième série de 34 comas avec électrochocs associés. Non seulement on n'obtient aucune amélioration, mais l'état mental s'aggrave progressivement. Les idées de mutation corporelle ne sont plus exprimées. Le mutisme devient presque absolu. En mars 1948, on tente sans succès un traitement de sulfosine. Alors c'est un neuroleptique de l'époque, pas très bien encore stabilisé, quoi, enfin géré, quoi. Une leucotomie, c'est-à-dire c'est une lobotomie un peu plus soft, un peu moins invasive, est pratiquée le 10 mars 1949. En juillet 49, on observe une amélioration transitoire de l'état mental qui n'a qu'une courte durée. Une cure de 40 comas est bien supportée par le malade. Alors là, on ne sait pas si c'est des comas insuliniques ou autre chose. Le mutisme est absolu, le sujet ne mène plus qu'une vie purement végétative. En août 1950, 7 séances d'électrochocs prolongées sont sans aucun effet. En février 51, devant l'échec des divers traitements, on entreprend un traitement par électronarcose à raison de 2 séances par semaine. Les 9 premières séances se passent sans incident. Le 14 février, au cours de la 10e séance, le malade meurt après 23 mois après la lobotomie. Donc voilà comment on pouvait envisager le traitement des personnes trans par ignorance à l'époque. Un autre cas très célèbre dans le monde intersexe, bien qu'il ne s'agisse pas d'un intersexe, c'est le cas David Remer, qui est connu sous le nom de John Johan. Et l'affaire a été publiée ensuite sous les deux noms, donc dans un premier temps sous le nom de John Johan, puis ensuite sous le vrai nom. Donc à cette époque, personne ne faisait la distinction entre le sexe psychologique et l'identité de genre, et les deux étaient englobés et appelés identité de genre. C'est vrai que je fais une petite différence, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails là. Résumé de l'histoire, donc. À la suite d'une circoncision ratée à 8 mois, David Remer devient le sujet d'une expérience des années 60-70, donc qui a été instigée par le psychologue John Monet, qui a convaincu les parents de donner des hormones féminines à leur fils et de l'élever comme une fille qu'ils ont appelée Brenda. En 1965, il dirige le département de recherche psycho-hormonale à l'université John Hopkins depuis plus d'une dizaine d'années. Cette clinique étudie et traite des enfants intersexes. Cette transformation de sexe a été rapportée comme un succès et la preuve que les enfants ne sont pas par nature féminins ou masculins, mais socialisés par l'éducation pour devenir des filles ou des garçons. Mais la théorie de John Monet est fausse, en tout cas, elle n'est pas démontrée par ce cas, elle est même inversée. La preuve est donnée donc par ce cas sur lequel il a construit toute sa théorie. C'est-à-dire pendant des années, il a continué à présenter ce cas comme un succès alors qu'il avait sous les yeux un échec. En plus, il y a eu une sorte de mensonge scientifique qui a duré une dizaine d'années, pendant lequel on a encore continué à faire des mutilations sur des enfants. Donc, Brian, le frère jumeau homozygote de David, donc il s'agit de deux frères nés du même œuf, qui s'est scindé en deux, donc qui donne deux patrimoines génétiques similaires ou très très proches, parce que parfois il y a des évolutions inter-individuelles différentes. Donc ce jumeau offrait au chercheur un sujet de contrôle parfait, et les parents n'ont jamais été informés qu'il s'agissait d'une expérience, que c'était la première fois qu'une telle chose était faite sur un enfant non intersexe. C'est-à-dire que c'était un garçon, ce n'était pas un intersexe déjà, c'est la première chose. Et donc les intersexes ne sont ni des garçons ni des filles, ce sont des enfants différents. Il ne faut pas les prendre comme des garçons et des filles, sinon on se plante, en tout cas dès le départ, quoi. Brian et David, donc deux jumeaux, sont nés en 65 et après donc quelques mois, les deux jumeaux ont des difficultés pour uriner à cause d'un phimosis, qui est donc le rétrécissement du prépuce, la peau qui recouvre le gland. Donc pour que l'urètre ne soit plus comprimé, il faut l'enlever. Et lors d'une circoncision, donc le fait d'enlever le prépuce, David perd son pénis, en fait, mais le perd complètement, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Donc à 17 mois, il avait alors 18 mois à cette époque. Hein. À 17 mois, il a une première consultation chez le docteur John Monet avec toute sa famille. Et après avoir beaucoup réfléchi, ses parents décident de faire confiance à John Monet. À 22 mois, donc David est castré. On transforme son scrotum en petite et grande lèvre et en entrée de vagin. On modifie la position de son urètre. Pour John Monet, la limite d'une réassignation sexuelle est un petit peu après 24 mois. Il avait donc 22 mois à l'époque. Malgré cela et la contrainte que les adultes exercent sur lui, et parce qu'il trouvait que c'était plus facile, David urinait debout chaque fois qu'il n'y avait personne pour le surveiller. À cause de cela, les filles comme les garçons ne voulaient pas de lui dans leurs toilettes. Durant toute sa scolarité, il a été rejeté par les enseignants et les autres enfants. Sa scolarité a été désastreuse. Il a plusieurs fois été signalé à la Shield Guidance Clinic, ce qui est un peu nos PMI locales, donc pour des problèmes des enfants. Et dans ce cadre, il voit un psychiatre à partir de 11 ans. Malgré la bonne volonté de ses parents pour appliquer le programme de John Monet, David a dès le début résisté à cette assignation forcée qu'il sentait étrangère à sa nature profonde. Vers l'âge de 8 ans, les jumeaux ont commencé à refuser d'aller voir la visite annuelle chez John Monet. Le comportement, gestes, façon de marcher, de parler, etc. de David est masculin, son physique est plus fin que celui de son frère Brian. À 9 ans, John Monet dit à David qu'il lui faut un vagin pour être une vraie fille. David refuse toute nouvelle intervention. À 11 ans, on lui demande de prendre des hormones féminines. Il refuse. Il ne voulait pas avoir de sang, de sein. Il menace de se suicider si on l'oblige à continuer de voir John Bonnet. À 12 ans, David prend des hormones féminines pour faire plaisir à ses parents et parce qu'on lui dit que sans cela, ses membres ne se développeront pas normalement. Il ne sait pas que c'est John Bonnet qui les prescrit. Donc en fait, toute l'histoire, c'est un mensonge tout au long, quoi. David est suivi par un psychiatre et un endocrinologue locaux. Ils appliquent le programme de John Bonnet, mais devant l'évolution de David, ils finissent par se poser des questions. À l'hiver 79, David a 14 ans, il refuse un examen des seins qui se sont développés et son endocrinologue lui demande s'il veut être une vraie fille. David dit non. Le médecin informe les parents qui décident de lui révéler la vérité sur son passé, ce qu'ils font le 14 mars 80. David en est soulagé, il comprend mieux pourquoi il se sentait bizarre, il décide de reprendre son identité masculine, de prendre des hormones mâles et entre 15 et 16 ans, il a une mastectomie et une première phalloplastie qui lui permet seulement d'uriner. Il a une période difficile parce qu'on se moque à nouveau de lui pendant plusieurs mois suite à une histoire amoureuse qui finit mal et où tout le monde apprend l'histoire de sa circoncision et de la perte de son pénis, histoire qu'il avait confiée à sa petite amie. Suite à ça, il a fait 2 tentatives de suicide. À 21 ans, il a une seconde phalloplastie qui lui permet d'avoir aussi des relations sexuelles avec orgasme. Il a un bon travail qui paye bien. À 23 ans, il rencontre une femme de 26 ans qui a 3 enfants de pères différents et qui les élève seule. Il se marie et 2 ans plus tard, David devient le père adoptif des enfants de sa femme. David est tombé en dépression après avoir perdu son emploi et s'être séparé de son épouse. Quotidiennement, il avait aussi perdu son frère 2 ans auparavant. Il visitait la tombe de son frère, donc il pleurait toujours. La cause du décès n'a jamais été confirmée, mais la mère suspecte qu'il s'agirait d'une overdose de médicaments dont Brian avait besoin pour traiter sa schizophrénie. Donc il semblerait que le frère jumeau de David avait une schizophrénie et prenait des médicaments. Donc comme sujet et objet de contrôle d'une expérience, c'est pas non plus très probant. Donc David a mis fin à ses jours le 4 mai 2004, donc il avait 38 ans. Voilà, donc suite à la médiatisation du cas de David Remer, la plupart des pays occidentaux ont décidé d'un moratoire sur les interventions qui ne sont pas destinées donc à sauver la vie des enfants ou à améliorer suffisamment leur confort de vie. C'est malheureusement toujours pas le cas en France. Alors le cas numéro 3, c'est une consultation d'une équipe donc médicale hospitalière. Donc c'est une personne trans M2F qui a consulté le psychiatre, qui ensuite a obtenu une copie de son dossier, 4 pages de notes brouillonnes en tout et pour tout. Et elle me les a confiées donc pour qu'on puisse un petit peu voir comment travaillent ces psychiatres. Donc d'après, je vais mettre l'initiale C, donc l'information décrite des entretiens est tronquée, déformée. Une partie des questions sert à valider des critères du protocole de l'équipe, ceux que j'ai cités un peu plus haut. Et le psychiatre écrit au masculin, donc évidemment, tout ce qui concerne la personne. Donc après, je vais un peu décrire plutôt les écrits. Je ne vais pas les lire parce que c'est très... je vais plus les décrire un peu quel type de questions. Pour montrer un peu quelles sont les intentions derrière, quoi. Donc après, les questions sur l'état civil... Le psychiatre lui demande sa taille, son poids, sa pointure de chaussure. À la réponse, et j'ai résumé, hein, j'ai pas de la patiente 42, il dit vous aurez du mal à trouver des chaussures, donc à votre pointure, je suppose des chaussures de femme. Donc, le psychiatre se renseigne sur sa vie sexuelle, si elle vit seule ou en couple, si elle est mariée, si elle a des enfants. Demande de lui dire aussi comment elle savait qu'elle était une femme. Ce à quoi elle répond, sensible, émotif, inquiet, enfin, ce sont des résumés parce que l'écrit est résumé lui-même, attentif et aux autres. Et après, on en a discuté ensemble avec elle. La question ne serait pas idiote si on savait définir ce qu'est une femme ou un homme, en dehors des constructions sociales et biologiques. À savoir, si vous posez la question à diverses personnes, vous verrez qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, les réponses sont toutes les mêmes. Ça a été mon travail en maîtrise, de constater qu'on ne rencontre que des définitions médicales, ou bien stéréotypés du type justement sensible, émotif, inquiet, quoi, qui sont liés à la culture. En fait, personne ne sait. Le jour où on trouvera, il y aura peut-être un prix Nobel. Donc les biologiques. Donc c'est décrit un stéréotype féminin, donc sensible, émotif, attentif aux autres, courant dans sa culture. Qu'aurait-elle pu dire d'autre? De plus, C'est une donnée qui est totalement invérifiable. C'est pas, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Sauf à montrer qu'elle se projette dans le stéréotype social local, quoi. Le psychiatre demande aussi assez si elle se travestit, parce qu'évidemment, terme que évidemment les personnes trans réfutent toujours, si elle est sexuellement excitée par le travestissement. Alors ça, c'est parce que pour eux, c'est du fétichisme, donc on exclut les fétichismes du diagnostic entre guillemets trans. Le problème, c'est qu'il y a aussi des trans qui ont des excitations sexuelles avec des habits. C'est pas le fétichisme est une particularité de la sexualité humaine et qui n'est pas limitée aux hétéros ou aux homos. Hein. Ça n'a rien à voir, ce sont les personnes tout court, quoi. Donc, c'est m'a fait remarquer qu'une fois de plus, ses propos avaient été déformés, tronqués, et que le jamais... Ah oui, alors, j'ai demandé... oui, je relis. Le psychiatre demande assez si elle se travestit, donc, ou si elle est sexuellement... oui, et il décrit, donc, oui, il écrit, c'est là, c'est écrit, je le prends littéralement, n'a jamais été attirée par les hommes, sauf par les homosexuels efféminés qui pouvaient lui plaire. Donc là, c'est me faire la remarque qu'une fois de plus, ses propos avaient été déformés et tronqués, et que le jamais contredit la suite du commentaire, sauf des homosexuels efféminés qui pouvaient lui plaire. Sauf à penser donc que dans l'esprit de ce médecin, être un homosexuel efféminé, c'est d'une certaine façon ne pas tout à fait être un homme. Finalement, le psychiatre dit assez, mais pourquoi n'êtes-vous pas homosexuel ? Comme si elle pouvait répondre à cette question. On ne choisit pas d'être homosexuel, pas plus que trans d'ailleurs, ou d'être roux ou gaucher. On peut seulement assumer ou pas ce fait. Pour une personne trans, assumer, c'est faire une transition. Le but, c'est bien de fabriquer des hétérosexuels à la sortie, en fait, de ce truc-là. Donc après, il écrit, donc, alors il faut savoir que normalement, il faut 2 ans pour faire le diagnostic selon cette équipe médicale, et qu'il n'y a pas de projet thérapeutique qui peut être effectué avant le diagnostic. Sauf que là, c'est le premier entretien. Et il écrit, littéralement, après que je lui ai expliqué qu'il n'est pas a priori transsexuel primaire, c'est reformule sa demande et veut approfondir la question avec moi. Et il dit assez, il vous manque un élément fondamental pour être transsexuel primaire, c'est l'attirance pour le sexe opposé à celui que vous dites avoir. En gros, vous n'aimez pas les hommes, mais en même temps, c'est de l'homosexualité refoulée si on dit ça. Donc, de toute façon, quelle que soit la réponse donnée, on a toujours tort. La réponse, donc, la notion de transsexuel primaire et de transsexuel secondaire est aussi obsolète que ce protocole, dont j'ai lu quelques extraits au début, de soins de cette équipe médicale. Par ailleurs, l'attirance amoureuse et sexuelle est totalement indépendante de l'identité de genre. Soit le diagnostic est posé et il n'est pas nécessaire de faire languir c'est durant 2 années, soit si le diagnostic est négatif, il vaut mieux lui dire clairement, et pour ne pas la prendre en charge, ou encore lui dire qu'on envisage autre chose pour elle. Soit le diagnostic n'est pas établi et il s'agit d'une méthode que je trouve contestable pour déstabiliser C et voir comment ça va se passer. Nous sommes donc dans des pratiques qui relèvent de la maltraitance théorique au sens de Françoise Cironi, qui a écrit un article là-dessus très intéressant. Je rappelle que c'est... Donc, c'est ce que j'ai déjà dit, on va donc sauter. Donc, a priori, le diagnostic ne devrait pas être posé avant l'échéance donc des 2 ans. Que penseriez-vous d'un problème médical dont on connaît... enfin un problème, quel que soit le problème, dont on connaît le diagnostic, mais dont on ne proposerait pas de soins avant 2 ans. Je trouve que, alors que ceci existe, qu'ils ont fait leur preuve depuis 50 ans, c'est un peu ce qui se passe. Pour le psychiatre, ce n'est pas une bonne candidate à la transition. Bon, en fait, elle s'est finalement adressée à d'autres médecins, elle a eu raison, et elle a financé sa transition, elle a obtenu son changement d'état civil, et elle vit maintenant plus heureuse que si elle ne l'avait pas fait. Le but non avoué de ces équipes médicales hospitalières est donc de limiter le nombre de personnes accédant à la transition au moyen de critères obsolètes, péjoratifs, sexistes, érigeant en normes des stéréotypes majoritaires et non questionnés. Donc, en conclusion, quand on se rappelle comment étaient traités les enfants gauchers et les enfants adultérins dans les années 50, par manque de connaissances ou pour des raisons morales, et comment on considère ces mêmes personnes dans les années 2000, on peut mesurer l'évolution de la société, de ses mœurs et de ses connaissances. C'est la même histoire qui se répète avec les trans et les intersexes. Beaucoup de chemin reste à faire pour que les trans et les intersexes soient considérés aussi bien que les gauchers aujourd'hui. Aucune majorité n'a raison parce qu'elle est majoritaire. Elle ne doit pas être une norme parce qu'elle est majoritaire. Le degré de civilisation d'une société se mesure à sa capacité à intégrer les populations situées aux marges d'une courbe de Gauss, c'est-à-dire les courbes en cloche, c'est-à-dire celles qui sont sur l'extérieur, qui sont donc toujours minoritaires par définition. Donc, ce sont donc ces populations, dites minoritaires, qui font évoluer les normes d'une société. C'est vrai que tous les mouvements viennent de là. Au départ, tout mouvement culturel ou quelconque, il est minoritaire. Parfois, il devient majoritaire, mais pas toujours. Mais en tout cas, ça fait avancer les choses. Donc, en conséquence, nous avons tout intérêt à connaître et respecter ces populations et cultures marginales. Quand j'en dis marginal, j'entends par minoritaire. Parce que c'est pareil, le sens de marginal, il peut être péjoratif, mais c'est aussi son vrai sens. Je pense donc à une société qui serait plus libertaire, une société qui permette à chacun et à chacune d'avoir une place, une société qui ne soit, sans domination ni discrimination. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Alors,
je vais demander à ce qu'on nous projette le petit CD qui nous a été prêté par Vincent, qui retrace, enfin qui fait un petit portrait du mouvement Get. Voilà. Donc vous allez faire un peu de torticolis pendant 3 minutes.
Por venir.